On est en train de faire une étude pour éplucher un peu le sujet de sonder nos cœurs. De faire le ménage nos cœurs. On avait un verset clé, puis on va en reparler un petit brin tantôt, les semaines antérieures. Puis, Dieu, je crois, qui est en train de faire un œuvre. Vous savez que le travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener à être comme Jésus. Mais des fois, on a besoin, puis on le sait pas, mais Dieu le sait, on a besoin, comme si on passerait à la table d'opération à cœur ouvert. C'est pas facile, là, c'est un choc pour un corps. Tu vas vraiment te faire opérer par quelqu'un, là, puis il te coupe tout ça, là, puis il trouve ça, puis là, il sort tes morceaux, puis il t'en enlève, puis il t'en rajoute, puis ils font toutes sortes d'affaires à l'intérieur du cœur. Tu es en état de choc. Premièrement, c'est trop dur pour toi d'endurer tout ça. Ils sont obligés de t'endormir. C'est la même chose que Dieu a fait à Adam quand il l'a endormi pour prendre la côte, pour former Ève. L'idée, c'est que c'est dur, physiquement, une opération à cœur ouvert. Mais Dieu est obligé de faire la même chose aussi à chacun de ses enfants pour le côté spirituel. Parce qu'il veut faire un travail à cœur ouvert. Mais c'est pas le même cœur qui va opérer, là. On parle pas du cœur physique. Notre cœur, notre âme, notre esprit, notre intérieur, notre fort intérieur où réside notre volonté, nos pensées, nos goûts, nos sentiments, nos émotions. Même ce qui pourrait venir comme pensée de la chair, parce que la chair, elle a une volonté et des pensées qui nous parlent. Puis notre intérieur, il est comme complètement centré sur lui-même, mais Dieu, lors de notre nouvelle naissance, il nous a donné son Saint-Esprit qui est venu habiter dans notre cœur. Là, il y a un travail qui se fait. Dieu travaille pour changer notre cœur. Puis il veut nous amener à être comme Jésus, mais il veut nous montrer qu'est-ce qui doit être dans notre cœur. Puis qu'est-ce qui est pas de Dieu, puis qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qu'il faut enlever, puis qu'est-ce qu'il faut rajouter. Le Seigneur fait une œuvre. Puis il sait bien plus que nous ce qu'on a besoin. Puis ce qu'on a à faire, c'est, gloire à Dieu, on a affaire au plus grand chirurgien pour les cœurs. Jésus, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lui, c'est lui le spécialiste des âmes, aussi du corps, bien entendu. Mais là, on est en train de travailler sur notre cœur, puis de voir comment est-ce que, vu qu'il veut nous amener à la stature de Jésus, il y a de grandes opérations à faire en nous pour couper des affaires qui n'ont pas besoin d'être là, puis ne devraient pas être là. Puis s'ils restent là, ces affaires-là vont nous nuire dans notre marche, vont nous nuire dans notre croissance. Quelqu'un qui a le cancer, puis il restera le morceau-là avec le cancer, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Mais ça va conduire la personne à la mort. Il faut absolument que ça soit retranché. Bien, on est comme pris en tant qu'humain avec plein de cancers que Jésus doit opérer. Des opérations à cœur ouvert, il faut qu'il enlève des choses. Parce qu'on ne pourra pas devenir comme Jésus si on reste avec ces cancers-là en nous, spirituellement parlant. Puis là, on va voir dans les quelques études à venir, comme en partant d'aujourd'hui, voir les différentes opérations que Dieu veut faire en nous. Parce que la Bible, elle nous dévoile déjà des états de cœur que Dieu veut changer. Puis là, c'est en regardant ce qui est écrit qu'on s'aperçoit qu'il faut passer par là, il faut que cette opération-là soit faite dans ma vie, il ne faut plus que je sois comme ça. Faut pas choix comme ça si je veux arriver à être comme Jésus. Ah, est-ce qu'il y en a ici qui veulent arriver à être comme Jésus? Moi, le premier, puis toute la gang, j'espère que vous voulez être comme Jésus. Mais il veut aussi nous rendre comme cela. Là, on n'a pas le choix de se laisser guider par lui pour y arriver. Le problème qu'il faut se poser, quels sont les états de cœur dévoilés par la parole de Dieu? Parce qu'il y a des cœurs, il y a déjà des états de cœur qui sont comme des cancers, qui sont dans les humains, puis que Dieu a déjà parlé de cela à plusieurs reprises dans la Bible, puis que ça fait que si les gens restent comme ça, ils deviendront pas comme Jésus. Ils se rendront pas jusqu'à la fin. Il faut absolument que Jésus travaille dans ces états-là. On a vu la semaine passée, puis la semaine avant, ce verset-là, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Ça, on a vu là-dedans que ce qu'il y a de plus important dans toute cette vie, tout ce qu'on est en train de vivre depuis qu'on est chrétien, là, puis jusqu'à la fin de notre vie, il n'y a rien de plus important que l'état de notre cœur. Si on rentre pas là-dedans, puis d'accepter qu'il fasse ces opérations-là, on se rendra pas. Il est obligé. Puis, c'est le spécialiste. Puis, il nous a déjà donné dans sa parole des éléments qu'on a besoin de savoir pour y arriver. Parce que on a compris, on l'a vu la semaine passée, que quand tu réalises qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, bien, il faut t'en parler au Seigneur tout de suite. Viens changer ça. Je te donne ce péché-là, je te donne ce problème-là, je te donne cet état-là, pour que lui fasse l'opération. Nous, on garde, on veille, juste pour se rendre compte. On n'a pas la capacité de changer les choses dans notre vie. Mais Dieu, oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier chaque fois qu'on réalise qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas de Dieu, de demander pardon au Seigneur, puis de demander de venir nous changer. Puis c'est lui qui va le faire. Il est déjà volontaire, puis il a déjà dit que c'est de même que ça marche, que la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de veiller. Qu'est-ce qui est là dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu un cœur qui est droit devant Dieu, qui est juste, un cœur qui est pur, un cœur qui est vrai, ou s'il y a encore des affaires qui n'est pas de Dieu? Comment faire pour connaître l'état de notre cœur? Là, c'est là. Il me dit, veille sur ton cœur. Comment je vais faire pour voir c'est quoi mon problème quand je suis déjà une personne qui a de la misère à voir, à penser à deux affaires en même temps, où on n'est pas capable de grand-chose, humainement parlant? Il faut absolument qu'on ait de l'aide pour y arriver. C'est pour ça que dans le psaume 139, le verset 23, ça dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Voyez-vous, mon rôle est le rôle de Dieu. Mon rôle, c'est de veiller sur mon cœur. Mais je dois demander à Dieu de venir me sonder, puis Dieu de venir me montrer ce qui marche pas dans mon cœur. Comment je vais faire pour m'en sortir si je ne demande pas de l'aide? On verra pas grand-chose. Ça va faire un peu comme je disais, on va regarder dans le miroir, puis on se revient d'abord, puis on oublie ce qu'on était. Ça n'aura pas d'impact dans notre vie, à moins que Dieu vienne intervenir. Mais pour qu'il intervienne, moi je suis le gardien de mon cœur, puis je dois demander au Seigneur de venir me sonder. Puis qu'est-ce que Dieu se sert pour nous sonder? Mais il permet qu'il y ait des choses qui nous mettent de la pression un peu dans notre vie. Puis là, on réagit. Puis là, on constate des affaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on en constate? Bien, il faut les remettre au Seigneur tout de suite pour que lui dise de venir faire l'opération puis d'enlever ça, ces cancers-là. Sinon, j'arriverai pas à être comme Jésus. Ça, c'est tout le monde, quand tu es chrétien, mais en réalité, c'est toute la planète qui est appelée à vivre cette relation-là avec Dieu. Mais c'est juste quelques-uns qui répondent à l'appel, puis ça s'adresse à nous. On a à apprendre à demander à Dieu de venir nous révéler notre cœur. Une fois qu'on comprend des choses, il faut tout de suite apprendre à y remettre entre ses mains. Mais comment un serviteur mature fait-il pour continuer à croître dans le Seigneur? C'est encore la même affaire, mais je vais vous lire un autre verset, puis vous allez comprendre un autre aspect de ce travail-là pour nous révéler notre cœur. Regardez dans le psaume 26, les versets 2 et 3. Dans ce psaume-là, tu lis ça, là, au verset 4, 5, 6, là, ça parle de quelqu'un qui marche en intégrité, qui marche avec Dieu. Mais on va voir comment est-ce qu'il s'y prend, lui, pour voir son, l'état de son cœur, comment est-ce qu'il prend les choses, parce que c'est une personne qui a de la maturité dans sa vie. Dans le psaume 26, les versets 2 et 3, il commence un peu comme l'autre psaume que je viens de vous lire. « Sonde-moi, éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Ça commence pareil. Ça parle de quelqu'un qui demande de l'aide à Dieu. Fait que même quand tu es mature dans le Seigneur, faut que tu continues à demander de l'aide dans au Seigneur. Tu peux pas arriver puis penser que tu es capable tout seul, là, je suis assez grand, je suis capable tout seul. Même les matures, ceux qui marchent dans la victoire dans le Seigneur, les apôtres, peu importe les plus grands apôtres qu'il y a eu, là, mais ils ont tous passé par le même chemin, puis c'est pour tout le monde, tu demandes de l'aide à Dieu. Mais il y a un petit élément différent, c'est qu'ils sont conscients de leur position devant Dieu. Parce que ce qu'on lit dans l'autre verset, c'est ça que je veux qu'on regarde au verset 3. Car, il dit, « Sonde-moi éternel, éprouve mon cœur, fais passer au creuset, ça c'est au feu, mes reins, mon cœur, ça c'est pour le mettre à jour. Mais car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » On voit deux choses de plus dans ce verset-là qu'on n'a pas dans l'autre verset. C'est que la personne qui est dans une maturité, elle rentre dans l'état qu'elle est consciente de la grâce de Dieu. C'est un peu comme nous aujourd'hui, là. On est sous la grâce. On est en Jésus. On a, à cause de Jésus, un statut qui est différent avec ceux du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. On est conscient qu'on est dans la grâce de Dieu. Puis quand tu es dans la grâce, mais Dieu il use un peu plus de patience envers ses enfants qu'il est capable d'en avoir pour les gens du monde. Pourquoi? Mais parce qu'on est sous le sang de Jésus. Dieu nous a pardonné nos péchés, puis quand tu demandes pardon, il te pardonne encore. Tu es tout le temps sous le pardon. Il est pas comme quelqu'un qui ne demande jamais pardon, puis il est toujours en train de l'offenser. On est sous la grâce. On est conscient de la grâce. Mais on fait pas de la grâce un sujet, « Oh, c'est pas grave, je suis sous la grâce. » Comment se fait que je peux dire ça? Mais regardez, le verset dit, « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » On voit que quelqu'un de mature dans le Seigneur, même s'il sait qu'il est sous la grâce, il s'applique. Il applique sa vie, il applique ses regards à sonder la vérité, à apprendre la vérité, à connaître la vérité et à marcher selon la vérité. C'est quoi qui est la vérité? Ta parole est la vérité. Quelqu'un qui il veut changer, on va vous faire un petit résumé. Quelqu'un qui veut changer, mais il sait pas encore quoi changer. Il demande à Dieu de l'éprouver pour révéler son cœur, mais il est conscient qu'il est sous la grâce, mais il néglige pas. Il applique son cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Il veut rester conforme à la parole de Dieu. La Bible parle qu'il y a certains états de cœur qui amènent une décroissance. Autant qu'un état de cœur qui peut t'en agrandir dans le Seigneur, mais il y a des états de cœur qui peuvent nous amener à avoir une décroissance. Que tu grandis pas dans le Seigneur à cause de ton attitude, à cause de tes pensées, à cause de ta manière de vivre, tu grandis pas, tu vas reculer. Puis la Bible a fait la lumière sur les états de cœur qui sont défaillants, afin de nous amener à ce qu'on s'attache au Seigneur, pour qu'on puisse recevoir du Seigneur les guérisons, les délivrances, les transformations, les opérations. Le verset que j'ai lu d'un psaume, il dit, « Ta grâce est devant mes yeux, puis je marche dans ta vérité. » Mais le fait de s'appliquer à être à la recherche de connaître la vérité, qui est la parole, ça va t'amener à allumer tes lumières pour que tu vois encore davantage les choses que Dieu nous a parlé. Les choses qui pourraient nous nuire, des états de cœur qui sont déjà enseignés dans sa parole. Quand on étudie la Bible, que, en réalité, c'est ce qu'on est en train de faire. On étudie dans le but d'apprendre. Puis quand tu apprends, tu le sais. Puis là, en fouillant dans la Bible, on va apprendre des différents états de cœur qu'il faut que ça change si on veut grandir. Puis Dieu, il nous les a déjà révélés dans sa parole. Fait que tu veux que Dieu te change, tu vas lui demander de l'aide de te changer, mais ça va toujours passer par ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que Dieu l'a déjà révélé. Il s'agit juste d'aller regarder les versets qui nous en parlent, puis après ça, on va être déjà être plus conscient pour les choses qu'on a besoin de demander à Dieu. Le sujet qu'on va regarder dans un état de cœur, quel est l'état de cœur que je veux vous parler? C'est le cœur partagé. On va parler aujourd'hui à propos du cœur partagé. Puis quand tu as un cœur partagé, c'est dangereux pour la vie chrétienne que tu ne te rends même pas à la fin. C'est ça qu'on va regarder avec des passages des Saintes Écritures pour que Dieu fasse des lumières dans notre cœur. On veut marcher selon la parole, mais la parole nous parle du cœur partagé. Puis on va regarder ce que la Bible dit sur le cœur partagé dans le but d'apprendre ce que Dieu veut allumer comme lumière. Le cœur partagé, c'est un grand obstacle à notre croissance dans le Seigneur. Le premier exemple d'un cœur partagé, un cœur partagé, c'est un cœur qui est pour les deux côtés, t'es partagé. T'es autant pour la moitié sur ce bord-là que la moitié sur ce bord-là. Mettons, si t'as deux choix devant les yeux, tu vas être autant égal ces deux bords. Le premier exemple qu'on va regarder, c'est ceux qui ont le cœur partagé puis sont balancés en deux dieux. En Dieu et un autre faux Dieu. Puis ça, c'est un état de cœur que Dieu ne peut pas accepter. Que Dieu l'a déjà dénoncé dans sa parole, dans plusieurs passages. Puis il faut absolument que ça soit opéré pour que notre cœur soit tout entier à Dieu. Le Dieu qu'on connaît, le Dieu de la Bible. Le premier exemple de cela, on voit ça dans l'histoire du prophète Élie, dans 1 Roi au chapitre 18, le verset 21. Ça, c'est au temps où ce que le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, il y avait comme roi en Israël Achab, puis il y avait Jézabel, sa femme, qui était une femme d'un autre peuple, qui n'avait pas rapport. Puis Achab, le roi d'Israël, s'était marié avec cette femme-là, puis cette femme-là avait importé les faux dieux de son pays. Puis il avait fait en Israël un paquet de temples de Baal puis d'Astarté. Puis il était rendu avec 850 faux prophètes, des prophètes de Baal puis des prophètes d'Astarté. Il y avait des temples partout. Puis le peuple d'Israël se souillait envers ces faux dieux-là. Puis Élie, lui, nous dit qu'il était resté le dernier, lui seul, des prophètes de Dieu. Il dit pas juste une place, il en parle au moins à deux places. Qu'il se croyait qu'il était rendu seul des prophètes de Dieu qui prenaient position pour Dieu puis qui défendaient la parole de Dieu. Puis malgré que Dieu lui a montré quand même qu'il y avait 7000 hommes parmi le peuple qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Mais le point que je veux en venir, c'est comment est-ce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui servait Dieu, ils ont vu et entendu les miracles que Dieu a faits, ils ont expérimenté des choses avec Dieu, la parole de Dieu leur avait été donnée, ils connaissaient ce qu'il y avait à vivre comme chose à mettre en pratique, puis leur cœur était partagé en Dieu puis les faux dieux. Dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 21, ça nous parle de Élie qui a rassemblé tout le peuple. Puis là, il a parlé au peuple, puis il a demandé au peuple quelque chose dans le but que le peuple prenne position pour Dieu ou pour le faux prophète. Ça nous dit dans le verset 21, il dit, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? » Si l'Éternel est Dieu, mais allez après lui. Puis si c'est Baal, mais allez après lui. Puis le peuple ne lui répondit rien. Voyez-vous comment est-ce que nous, on lit ça des fois, puis ça ne nous dérange pas, on lit ça comme si ça serait une histoire. Mais c'est grave aux yeux de Dieu. C'est un peuple-là qui était le peuple de Dieu, qui avait été racheté, avait été délivré d'Égypte. Dieu était avec eux autres, s'est manifesté puissamment, les a bénis à plusieurs reprises, les a fait rentrer dans la terre promise, puis là, ils sont rendus qui se prostituent avec des faux dieux. Ça, ça parle de personnes qui ont le cœur partagé. Ils sont pas à Dieu. Oui, ils croient en Dieu. Ils vont y aller peut-être dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu, mais ils vont aussi aller dans le temple des idoles. Ça ne les dérange pas. Ils ne voient pas de mal là. Leur famille, leurs amis sont là, ils vont là. Mais c'est comme si ça ne les dérange pas d'offenser Dieu. Ils ne pensent pas à ça qu'ils peuvent offenser Dieu. Mais ils sont en train d'offenser Dieu. Puis Dieu a envoyé le prophète Élie pour dire, là, écoutez, là, c'est-tu Dieu qui est Dieu? Si c'est Dieu qui est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal, allez après Baal. Soyez pas là à Fanaf. T'es pour Dieu ou t'es contre Dieu? T'es pour Baal ou t'es contre Baal? Tu peux pas être en train de servir de Dieu quand t'es... Là, ça nous parle comme exemple pour nous aujourd'hui. Là. C'est l'Ancien Testament, c'est comme des enseignements qui nous sont donnés, c'est des exemples qui nous sont donnés afin qu'on ne fasse pas la même chose qu'eux autres ont fait. Puis on voit dans l'histoire comment son peuple il avait un cœur partagé, puis comment Dieu s'est irrité contre eux. Jusqu'au point, finalement, qu'il les a tous déportés à Babylone. La ville de Jérusalem a été détruite. Dieu a envoyé ses punitions là à cause que ce peuple-là il se rebellait contre Dieu. Dieu peut pas tolérer ça. Alors regardez dans Osée, au chapitre 10, les versets 1 et 2. Dieu est en train de parler, puis il dit, « Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits étaient abondants, plus elle a multiplié des autels. Plus son pays était prospère, mais plus elle embellit ses statues. Leur cœur est partagé. » Voyez-vous, c'est une révélation de Dieu. Ça nous parle du cœur partagé. Partagé entre Dieu puis les idoles, puis les temples des religions étrangères. Puis là, Dieu y ajoute, « Ils vont en porter la peine. » L'Éternel renversera leur autel puis détruira leur statue. C'est ce qu'on voit qui est arrivé. Un deuxième exemple de ça dans la Bible sur le cœur partagé, c'est ceux qui balancent entre la parole de Dieu puis les religions. C'est comme s'ils sont attachés ces deux bords, mais ils savent pas qu'il y a une différence parce qu'ils la connaissent pas. S'ils sauraient, c'est quoi la parole de Dieu? Mais tu t'attaches à la parole de Dieu, puis tout ce qui est question de religion, tu rejettes ça. C'est pas les religions qu'il faut suivre, c'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Puis ça, c'est un chrétien a un cœur partagé, même à ce niveau-là. Avoir deux dieux, c'est déjà grave, là, parce qu'il n'y en a pas d'autres dieux, il y en a juste un dieu, il n'y en a pas deux. C'est des menteries, les autres dieux. Il y a juste un créateur. Ça, on est clair là-dessus. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a juste une parole de Dieu, qu'elle soit traduite par n'importe quel traducteur, ça dit la même affaire. C'est de servir Dieu le Père dans le nom de Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau pour t'y aller à Jésus pour pas être pardonné de tes péchés. Puis tu vas recevoir le Saint-Esprit, puis là, tu marches en sanctification. Ça dit la même affaire dans toutes les Bibles. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi qu'il y a des religions? Mais ça, c'est des inventions humaines. Ça fait partie du côté opposé, le côté obscur des choses spirituelles. Parce qu'il y a le côté de Dieu, c'est la lumière, la vérité. Puis le côté obscur, c'est tout ce qui est religion. Tout ce qui est invention de l'homme. C'est toute démenterie. Si c'est pas écrit dans la Bible, ben, on ne doit pas avoir un cœur partagé puis être à FNAF puis aimer autant les religions que d'aimer la parole de Dieu. Ça se peut pas quand tu es chrétien. Mais il y avait le peuple d'Israël ont passé par là aussi. Puis il était balancé entre l'enseignement de la parole de Dieu puis les religions qu'il y avait autour dans ce peuple-là. Puis il dit, puis là je vous dis ça de même, combien de fois Dieu a-t-il averti son peuple de ne pas imiter les pratiques religieuses des peuples autour d'eux? Il y a plusieurs passages dans la Bible qui en parlent, qui leur a dit de ne pas s'allier avec eux autres, de ne pas se marier avec leurs femmes, de ne pas toucher à leur idole, à leurs affaires qu'ils ont dans leur pays. Parce que ça, c'est des choses qui offensent Dieu. Puis si Dieu a détruit le Canaan, parce que Canaan était habité, là, la terre promise là, était habitée par des peuples. Mais quand Dieu a donné cette terre-là à Israël, c'est à cause que ces peuples-là faisaient des pratiques qui offensaient Dieu. C'est un jugement de Dieu sur Canaan de tout débarrasser ce monde-là qui vivait dans le péché. Là, le peuple de Dieu commençait à prendre possession de Canaan, mais ils n'ont pas détruit toutes les villes. Fait que là, ils ont commencé même à faire des alliances avec les autres peuples, puis ils ont commencé à se marier avec les femmes, puis ils ont commencé à se prostituer devant Dieu avec les religions, puis les faux dieux qu'il y avait dans ce territoire-là. Leur cœur était partagé avec les autres qui sont là. Dans Jérémie, au chapitre 10, les versets 2 à 5, c'est une parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Dieu, il les avait avertis de ne pas imiter ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe dans les autres peuples autour. C'était toutes des choses qui offensaient Dieu parce qu'ils ne servaient pas l'Éternel. Puis il dit, et ne craignez pas les signes du ciel. Ça, là, c'est toutes les... ceux qui tirent des pronostics là, du ciel, que ce soit l'astrologie ou que ce soit les cartes du ciel, l'horoscope, les en tout cas, toutes ces affaires-là, là, le monde, c'est pas d'hier que ça marche, là, ces affaires-là. Ça existait dans ce temps-là. Si on parle avant Jésus, là, 1500 ans, 2000 ans avant Jésus, c'était déjà là les ceux qui tiraient des pronostics, des choses. En réalité, c'était appelé des astrologues ou des magiciens ou des enchanteurs ou peu importe. Là, il y a plein de noms, des mages. Il y a plein de noms qui désignaient ce genre de personnes-là qui consultaient d'autres choses que Dieu. Puis là, Dieu lui disait, ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ça sert à rien, c'est ça que Dieu est en train de dire. Toutes ces pratiques-là, ça sert à rien. Tu trouves pas la vérité dans ces affaires-là. Là, il ajoute, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, ils vont faire une belle sculpture, on l'embellit avec de l'argent puis de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive puis ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. C'est ça qui est un peu la folie du monde quand ils se font des idoles ou ils s'inventent un faux dieu. Il n'existe pas. Ça répond pas aux prières. Les seules affaires qui se passent, c'est les mauvais esprits qui en font des manifestations dans le but de que le monde approfondisse leur fausseté. Mais un chrétien qui veut marcher avec le Seigneur ne doit pas rechercher les deux côtés, chercher les choses de Dieu, être en amour avec la parole de Dieu, puis être en amour avec les choses de ce monde, les sciences occultes, puis tout ce qu'il y a qui fait partie des qui n'est pas de Dieu. Ça, c'était dans Jérémie 10, le verset 2 à 5. Les enseignements de la parole de Dieu étaient ignorés pour des pratiques non bibliques. C'est ça que le peuple d'Israël était rendu à faire. À faire, au lieu de suivre la parole telle que c'était, mais il imitait les nations, puis il se mettait à pratiquer des choses qui étaient contraires à l'enseignement de la Bible, qui était leur enseignement dans l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques, le chapitre 13, le verset 9, c'est ce que ça nous dit. Dieu lui reproche, il dit, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel? Fait qu'ils ont mis de côté les vrais sacrificateurs de Dieu, les fils d'Aaron puis les Lévites. Puis il dit, ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Là, ils se sont mis en place d'autres sortes de sacrificateurs qui n'étaient pas les seuls que Dieu avait déjà déclaré. Ils tassaient ceux qui parlaient de la parole de Dieu, puis ils sont mis en place d'autres sacrificateurs. Ils mettaient en place une autre religion, une autre manière, une autre approche de servir l'Éternel. C'était ça le but, c'est de changer la parole pour pratiquer leur religion à leur manière. Il dit, quiconque venait avec un jeune taureau puis sept béliers afin d'être consacré, mais il devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Voyez-vous, Dieu il accepte pas les religions. Même si un gars il arrive avec ses offrandes, puis dit, consacrez-moi comme sacrificateur, puis il offrait ses offrandes, puis là il partait, il voulait être élevé pour avoir le contrôle spirituel sur le peuple d'Israël. Puis là, les gens embarquaient dedans, ils se partaient leurs affaires, mais ce gars-là, il n'avait pas le droit d'être sacrificateur selon le plan de Dieu. C'était les Lévites, c'était ceux qui descendaient de la lignée d'Aaron qui pouvaient être sacrificateurs. Eux, ils n'avaient pas le droit, mais ils partaient ça à leur manière parce qu'eux autres, ils aiment ça de même. Ils voulaient faire leur religion. Il y avait un cœur qui était comme, c'est pas grave, si on ne suit plus ce qui est écrit, puis c'est correct, si on fait ça à notre manière. On retrouve ça encore aujourd'hui, malheureusement. On tasse les versets pour accommoder, pour arranger ça à notre manière, ce qui nous plaît. Je ne demande pas de dire d'amen, je veux juste qu'on prenne conscience que ça ne devrait pas être. Parce qu'on veut suivre l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, là, ces exemples-là qu'on a vus, sont-ils encore d'actualité pour la Nouvelle Alliance? C'est ça qui est la question. Là, il y en a qui peuvent dire, « Ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là, puis eux autres vivaient leurs affaires, mais ça n'a pas rapport avec ce que nous autres, on est aujourd'hui en Jésus. » Ce qu'on devrait se poser comme question, y a-t-il des chrétiens qui s'attachent encore aux dieux et aux religions de ce monde? Hein? Il y en a trop. C'est vrai. C'est qu'ils ont le cœur partagé. Ils ont le cœur à Dieu, puis ils ont le cœur en même temps pour ce qui se passe dans les religions de ce monde, des choses que Dieu n'a jamais dit, puis des choses que Dieu ne veut pas. Puis les gens vont là comme si rien n'était. Dieu n'a jamais dit qu'il était d'accord avec ça. Il a condamné ces affaires-là déjà, puis il a déjà puni le peuple d'Israël pour toutes ces choses-là. Puis, il y a encore des choses qui se répètent aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Le monde est en train de rentrer dans l'Église. Les gens, pas grave, on est sa grâce. On a vu tout à l'heure le verset, oui, on a la grâce sous les yeux, mais on a aussi, on veut marcher dans la vérité. C'est quoi la vérité? La parole de Dieu. On veut pas sortir de cela. On est averti dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et 2, que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est pas Dieu qui a dit ces doctrines-là, c'est des démons. Puis ceux qui séduisent pour attirer, c'est des esprits séducteurs, c'est pas le Saint-Esprit. Il attire le monde à marcher dans des choses qui sont pas de Dieu. Les gens, là, ils connaissent plus les choses, puis ils ont plus de discernement, puis ils embarquent dans des affaires qui sont pas de Dieu. Ben oui. Il y a pas deux chemins pour être sauvé, il y en a juste un. C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu peux pas rentrer par ailleurs. Ceux qui essayent de rentrer par ailleurs, c'est des voleurs et des brigands. Le vrai, c'est Yeshua, le sauveur du monde. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Il dit, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. C'est, il y a juste un, c'est Jésus. Alias, ça c'est un alias, son vrai nom c'est Yeshua. Mais ça nous dit que dans les derniers temps, puis je pense qu'on est rentré, on est dans les derniers temps des derniers temps, parce que les derniers temps ont commencé à la Pentecôte, les derniers temps, mais déjà dans ce temps-là, il y avait des faux docteurs, puis il y avait des faux prophètes, puis il y avait des faux enseignants, Paul le dit aux Corinthiens, il dit, ceux qui vous parlent là, dans votre église, puis qui vous influencent, là, ce sont des ministres de Satan déguisés en ministres de Christ. Ils se font passer pour des ouvriers qui servent le Seigneur, c'est des gens envoyés par le diable dans l'église de Corinthe, ça. Si c'était là dans ce temps-là, pensez-vous qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Il y en a comme ça aujourd'hui. Tous les ceux qui laissent rentrer la pensée du monde là, dans leur église sont menés par cet esprit-là qui séduit et qui trompe le peuple de Dieu. Le troisième exemple d'un cœur partagé, balancé entre deux choses, c'est être balancé dans sanctification pour Dieu, puis être balancé dans les plaisirs défendus de ce monde. On voit ça dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, cœur balancé entre se sanctifier et de marcher dans les plaisirs défendus de ce monde. Puis ça, là, si on est pris de cela, mais il faut mettre un terme à cela. Il faut le confesser à Dieu, demander à Dieu qu'il vienne nous opérer. Peu importe lequel des points, c'est Dieu mal doit aujourd'hui sur les cœurs partagés pour qu'on finisse par être tout entier à l'Éternel. Il dit dans 1 Jean 2, versets 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, là, on parle de quoi est-ce que Dieu parle? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voyez-vous, là-dedans, là, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Quand il dit « n'aimez point le monde », c'est de marcher dans nos convoitises que notre corps, nos yeux nous attirent, puis l'orgueil, puis tout. Un dérèglement qui est contraire à la vie de sainteté et d'humilité. Des convoitises charnelles, surtout la sexualité, comment est-ce qu'elle est déréglée aujourd'hui, mais c'est les convoitises de ce monde à plein, que ça soit par les yeux, tu as accès à tous les films porno, tu as accès à tous les films et des photos là, sur Internet, il y en a à l'infini là, quasiment, c'est rendu effrayant. Que ce soit de te promener sur la rue, c'est la même affaire, les convoitises de tes yeux, qu'est-ce que tu vois sur le sexe opposé, ou que ce soit pour les biens à convoiter, ou que ce soit pour les... Quand tu as des besoins, quand tu demandes à Dieu, tu convoites pas de même, tu demandes à Dieu, tu mets ça dans les mains de Dieu, tu vas être gardé par son esprit. Puis si t'es attiré pour les choses sexuelles, pour les choses de convoitise, mais tu demandes à Dieu, il va t'opérer ça, lui, il va t'arranger ça pour que ça soit plus là. On n'a pas le choix. Il a jamais dit que les chrétiens n'auraient pas des convoitises des yeux, puis des convoitises de la chair, puis de l'orgueil de la vie. Il a juste dit, il faut pas en avoir. Mais quand on réalise que c'est là, il faut le demander à Dieu qui vienne nous opérer à cœur ouvert pour enlever ça. Puis il va le faire, parce que c'est lui qui l'a promis, que l'œuvre qui a commencé en nous va la rendre parfaite. Puis il va nous sanctifier lui-même, tout entier. Notre esprit, notre âme et notre corps vont être conservés irrépréhensibles. Il faut qu'il nous sanctifie, parce que nous, on n'a pas la force. Quand on réalise qu'on est un cœur partagé là, dans un des points que j'ai mentionnés, faut demander l'aide au Seigneur. C'est lui seul qui peut nous en sortir. Puis il veut le faire. Puis il nous condamne pas là. C'est pas l'heure de la condamnation. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance. Il veut nous délivrer. Il veut nous changer. Il veut nous rendre comme Jésus. Amen. Toutes les exhortations de la Bible nous amènent à nous attacher au Seigneur. Toutes les exhortations de la Bible. 1 Corinthiens 7, 35, je vais vous en nommer une. Paul, il dit, Là, il parlait de certains points. Il dit, je dis ça dans votre intérêt. C'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est ça qui est le but. Faut en arriver qu'on soit attaché au Seigneur puis on soit plus distrait. Tout ce qu'on apprend sur les choses de Dieu, c'est dans le but plus du Seigneur, encore plus du Seigneur. Je m'accroche au Seigneur, puis on se laisse pas distraire par ce qui est autour. Puis il sait qu'on est faible, mais il va nous donner à mesure la force pour marcher, peu importe dans les situations qu'on traversera. Le cœur partagé s'éloigne de Dieu. Le cœur rempli de foi s'attachera à la parole de Dieu. Ça, il faut faire partie de ceux qui s'attachent de plus en plus à la parole de Dieu. Comme je l'ai lu tantôt, il dit, « Ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Il faut être des personnes qu'on est capable de dire cela. La vérité, c'est la Bible. On veut marcher comme c'est écrit. On veut rester fidèle à ce qui est écrit. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 1, il dit, « C'est pourquoi... nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Quelles sont les choses qu'on a entendues? Ce qui vient de la parole de Dieu. Il faut s'attacher à ce qu'on a entendu, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Il faut faire attention, frères et sœurs, on ne veut pas se faire voler ce que Dieu a déjà promis. On s'attache au Seigneur, puis on reste attaché au Seigneur. On veut pas perdre ce qu'on a reçu. Le cœur partagé, il va perdre. S'il se repent pas, il va perdre. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur, ils perdront pas. Le Seigneur se cherche des gens avec un cœur entier pour Dieu. Des gens qui l'aiment de tout leur cœur, puis qui gardent sa parole. Dans Marc 12, 30, comme qu'il nous dit, Jésus lui-même le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Enlignons-nous, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, de tout notre cœur, puis sa grâce va être sur nous, puis on va être capable de dire, on marche dans la vérité. Amen. Un dernier verset qui nous dit, Dieu a préparé des promesses puis des bénédictions extraordinaires pour ceux qui l'aiment. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Comme c'est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, mais même les profondeurs de Dieu. Mais Dieu a préparé des choses extraordinaires pour ceux qui l'aiment. Sommes-nous de ceux qui veulent aimer le Seigneur de tout notre cœur? Si oui, les bénédictions de Dieu sont pour vous. Amen.